Vendredi 25 juin, on se retrouve en direct sur le plateau Divergence FM pour le cinquième numéro de notre reportage quotidien sur Montpellier Danse Festival.
Et aujourd'hui, il sera question du point de vue des critiques et des journalistes sur cette édition 2010 du festival, dont la première semaine se termine aujourd'hui. Nous recevons donc Agnès Izrine et Lise Hott, que l'on salue. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On a l'occasion de vous voir assez régulièrement pour les journalistes qui assistent aux conférences de presse à l'Agora, qui accueille les différents chorégraphes présents, puisque vous les animez en alternance l'une et l'autre avec d'autres intervenants également. Puis c'est un festival que vous suivez déjà depuis de longues années. Vous avez collaboré également à la rédaction de cet ouvrage somme qui est Montpellier Danse, 30 années de création sous la direction de Jean-Paul Montanari. Tout d'abord, votre point de vue sur cette édition 2010 avant d'y participer.
Pour préciser, disons, une année particulière parce que 30 années, s'il y a un rapport presque rétrospectif, un peu, je dirais pas patrimonial, mais mémorial. Et c'est une édition où peut-être un peu moins de création, mais on y vient voir ce qui, depuis 30 ans, a fait les grands moments de Montpellier Danse.
Oui, en particulier en ce qui concerne le spectacle d'ouverture, le Roi Oratorio de Meurs, mais et la présence par ailleurs de Trisha Brown avec la donation de ce dessin donc aux Ursulines, qui est maintenant installé, et ensuite William Forsythe, évidemment, qui a été une des figures importantes de ces 30 années. Par ailleurs, on a quand même des figures nouvelles qui apparaissent, qui sont apparues dans le champ chorégraphique plus récemment, comme Kader Atou, ou, ça y est, j'oublie le nom, Alain Buffard, voilà.
Et les jeunes aussi, les Bengoléa et Chénio, qui ont commencé leur triptyque hier avec Paquerette. C'est aussi là une forme de relève. Dans le livre des 30 ans du festival, il y a un découpage, 30 années en 3 fois 10 années, les années Bagoué, les années Montanari, les années Monnier. Est-ce qu'on trouve ce dosage-là dans cette 30e édition du festival ?
Moi, je dirais que oui, parce que, bon, alors bien sûr, il y a les grands chorégraphes que Lise citait, Forsythe, Cunningham, Anne-Thérèse Kersmaeker aussi, par exemple. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui ressort de ce festival, c'est finalement la pluralité des écritures possibles de la danse, de la chorégraphie. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet finalement, dans un temps très ramassé, de faire le tour de tout ce qui a pu traverser ces 30 ans au niveau justement de l'écriture et de la façon de s'y prendre avec comment construire une chorégraphie.
Les critiques sont assez présentes, c'est-à-dire depuis quelques années, il y a des dispositifs mis en place par Montpellier Danse. Vous êtes accueillis au titre de vos titres respectifs, c'est-à-dire Agnès Izrine, rédactrice en chef du magazine Danser, Lise Hott, entre autres, mais en tout cas rédactrice danse à Midi Libre. Mais tu participes aussi à Art Press, il me semble, à
oui,
Libre et d'autres publications. Comment s'est fait progressivement ce rapport de connexion assez directe entre cet espace critique et le festival ?
Bah, au départ, en fait, Jean-Paul Montanari m'avait demandé la première année d'animer ces tribunes critiques parce qu'il lui semblait que ça manquait au festival et que c'était vraiment l'occasion de faire entendre au public la façon dont les journalistes perçoivent les spectacles qui sont en train de se dérouler. Alors c'est vrai qu'auparavant, on avait fait des rencontres avec les artistes et il lui semblait justement que ce qui manquait, c'était ce regard vraiment critique hors justement de la parole des artistes.
Est-ce que ça suscite justement un vrai intérêt des publics qui viennent assister à ces temps ? Pour le rappeler, il y a un temps aujourd'hui même, à 18h, c'est un théâtre à la terrasse de l'Insensé, donc Musée Fabre. Et c'est échec et chef-d'œuvre. Voilà. Là, vous reviendrez plus particulièrement sur les spectacles de Kader Atou et d'Akram Khan. Est-ce que le public est au rendez-vous et ça suscite comme ça des questionnements assez foisonnants ?
Je dirais que ça dépend des fois.
Oui, ça dépend des spectacles aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas énormément de personnes, mais il y a comme un petit public de fidèles qui veulent aller voir au-delà du regard, qui veulent aussi, qui attendent des explications, qui attendent aussi d'éclaircir leur point de vue à eux-mêmes. Et donc, de temps en temps, il y a des précisions qui sont apportées par le public quant à ce regard qu'on peut porter sur les pièces, quant à leur réception, bien sûr.
Cette tribune critique, vous l'avez nommée échec et chef-d'œuvre. C'est un peu de la provocation, quasiment, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que deux catégories.
C'est un petit clin d'œil, je crois, aussi au masque et la plume, tout simplement, hein. À la base. Non, il n'y a pas que deux catégories, et je dirais même que la plupart des chorégraphies se situent entre les deux catégories, 9 fois sur 10. Non, c'était un petit coup de provoque.
Pour revenir sur cette première semaine du festival et sur d'éventuels chefs-d'œuvre, on l'espère, il y a eu cette grande ouverture avec Cunningham. On est assez heureux que le soir même de l'ouverture, qui était le premier moment public dans ce nouveau théâtre de l'Agora, tel qu'il est reconfiguré, a pu avoir lieu, parce que les deux représentations qui ont suivi, pour des raisons de niveau climatique, n'ont pas pu avoir lieu. Votre point de vue rapide sur cette pièce dont on dit que la musique est absolument sublime.
Bon, c'est vraiment une pièce extraordinaire parce que elle entre de plein pied dans la modernité telle que le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle l'expose. Bon, le texte de référence est un texte de 1939 de Joyce qui est réputé dès sa sortie comme étant illisible, incompréhensible, intraduisible, etc. Mais qui justement met l'accent sur un autre type d'écriture littéraire, supposant l'invention dans le langage et surtout un rapport à la musicalité très spécifique à Joyce. Meurce, évidemment, avec John Cage, s'empare de cette œuvre et peuvent du coup exposer quelque chose qui relève d'une combinaison entre environnement sonore, musicalité spécifique à Cage. Cette musicalité étant elle-même constituée d'une combinaison de sons, de musique, de sons pris dans la rue, etc. Et puis, d'autre part, l'écriture chorégraphique qui, elle, est soigneusement ciselée. Et c'est cet ensemble entre musique et chorégraphie qui répond à ce Fine Gun Sway qui ouvre la modernité, comme je le disais, de cette deuxième partie du XXe siècle.
Agnès, votre point de vue ?
Non, c'est assez exceptionnel. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la musique, c'est que quand même, elle avait été créée par John Cage avant la chorégraphie, ce qui est extrêmement rare chez Cunningham, que les danseurs avaient répété en silence avant de se trouver extrêmement surpris par cette musique de Cage qui était rythmique, ce qui est rare aussi. Et Cunningham a là-dessus fait à peu près le même travail de collage, de collectage et d'invention, en mêlant à ses mouvements habituels et à sa technique habituelle des figures empruntées à la danse irlandaise et même à la danse classique dans certains cas. Et ça donne une vision de Cunningham qu'on n'est pas plus tellement habitué à voir en France.
Manu Plaza, justement, y était et il a récolté quelques extraits musicaux de cette
bande-son composée par John Cage, que voici.
John Cage, donc, sur Divergence FM. Autre univers, autre espace, c'était au studio Bagoué, c'était Germana Sivera, une splendeur inespérée. Là, pour certains, échec, pour d'autres, plutôt une réussite. En tout cas, le curseur a eu du mal à se positionner, j'ai l'impression.
Je pense que le curseur a dû se positionner différemment aussi, suivant la façon dont on était placé dans la salle.
Exactement.
Moi, malheureusement, j'étais mal placée et c'est vrai que j'ai rien vu.
Un travail sur l'inconfort, finalement, du spectateur, ce qui est relativement risqué.
Oui, la pièce était censée évoquer la notion d'apparition et de disparition, ce qui en soi pouvait justifier le fait que certains spectateurs ne voient pas tout, tandis que d'autres en verraient des fragments. Mais le problème de ce postulat, c'est qu'en réalité, il y a des personnes qui n'ont rien vu du tout, et auquel cas, ça posait la question de savoir s'il ne fallait pas, en raison de l'environnement sonore et des bruits occasionnés par divers objets, plonger complètement le spectateur dans le noir. Et d'autre part, pour ceux qui voyaient, la juxtaposition des fragments de ce qu'ils voyaient ne produisait pas un sens suffisamment significatif.
On a vu d'ailleurs beaucoup de spectateurs fermer les yeux ou se mettre la tête entre les mains pour occulter en fait l'aspect visuel qui finalement était parfois et souvent manquant dans ce spectacle.
Et disons flash, pétard, il y avait quand même de quoi, j'imagine, dérouter pas mal. Donc là, on est resté sur une dimension inespérée, peut-être.
Oui, un petit peu.
Oui, dans l'attente.
Dans l'attente.
Dans l'attente d'autres choses qu'on lui souhaite de parvenir à réaliser.
D'autant que Germana s'est illustré ces dernières années dans le festival. On sait que maintenant, Jean-Paul Montanari soutient ardemment le travail de Germana, qui a présenté deux très très belles pièces ces derniers temps. Notamment son solo Figure en collaboration avec Laurent Goldring, qui a pas mal tourné et qui était une très très belle forme autobiographique, et sa pièce de groupe Fueron l'an passé, où là qui convoquait une trentaine de personnes sur un plateau beaucoup plus brouillon, mais on pourrait dire une forme d'anarchie organisée sur un plateau. Donc voilà, espérons que continue à pouvoir donner de nouvelles choses à Montpellier Danse. Et là, on passe à une autre pièce, ça a été Alain Buffard. Et Alain Buffard au Théâtre de Grammont, à titre personnel, là je le place plutôt vraiment vers les chefs-d'œuvre, une très grande pièce sur un thème où c'est rare de le voir à cet endroit. On connaît cet Alain Buffard qui a beaucoup questionné aussi de façon métaphorique, l'endroit de la maladie, du sida, de l'échange. Là, il vient sur quelque chose d'encore plus politique, finalement.
Bah, c'est pas si rare de le voir questionner à cet endroit, parce que même dans Good Boy, effectivement, qui est une pièce plus directement sur le sida, on entend bien que dans le titre, déjà, il y a quand même cette question du bon garçon. Dans Dispositif 3, c'est exactement le même thème, c'est-à-dire celui du dressage, des corps et des personnes. Vu un petit peu différemment, mais avec exactement les mêmes présupposés de notre société qui veut absolument se situer dans le politiquement correct. Et c'est vrai que cette pièce-là est, d'une certaine façon, la continuité de cette réflexion sur la soumission ou la non-soumission.
En tout cas, une forme de virtuosité transpire. Moi, ça chante, ça danse.
Oui, voilà, ouais. C'est pour compléter ce que dit Agnès, évidemment. C'est que ce thème que je raccrocherai facilement au film d'Almodovar, La mauvaise éducation, puisqu'il y a quelque chose de cet ordre là-dedans. C'est quand même pas seulement l'éducation telle qu'elle est liée à une part autobiographique, liée au rapport entre la mère et l'enfant. C'est aussi le dressage tel qu'il est organisé par le système de l'éducation au fil des ans de l'évolution de l'enfant et de l'adolescent. Mais c'est aussi le dressage tel qu'il a été institué dans les compagnies classiques de danse. Donc c'est vrai que sous cet aspect, il y a un enrichissement qui est proposé du côté de d'autres formes d'art, comme le théâtre, comme l'opéra, comme le cabaret, comme la variété. Et ça, c'est une combinaison intéressante parce qu'elle ouvre des portes sur quelque chose de nouveau.
Alors l'idée de l'émission n'est peut-être pas de décliner tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Là, on a fait quelques temps forts, c'était plutôt les débuts. Là, ce qui m'intéresserait peut-être pour conclure, c'est de convoquer votre regard vraiment de journaliste critique sur deux segments de la presse différente. C'est-à-dire Agnès Iserine se positionne sur un mensuel, donc théoriquement avec ce recul possible et voilà, là, une prise de temps. Lise sur un quotidien et avec cette exigence de l'urgence du quotidien. Et j'imagine que quand on est plongé dans un festival marathon comme cette 30e édition, parce que c'est quand même, il n'a jamais été aussi long, et ça il faut le préciser. En général, arrivé à la fin de la première semaine, on est toujours à mi-parcours. Là, on vient de faire un gros tiers. Comment se confrontent justement ces deux choses ? C'est-à-dire que du côté du mensuel, il faut faire plus travailler une mémoire et peut-être le mettre en rapport à une globalité qui est un festival dans son ensemble, alors que finalement, le rapport critique du quotidien est plus ciselé et plus directement dans le spectacle et dans cette urgence-là.
Oui, c'est un rapport au temps très différent, mais néanmoins, tout dépend du bagage qui accompagne ce regard. Pour ce qui me concerne, quand même, j'ai commencé à regarder de la danse dès le début des années 80. Je ne regarde pas que de la danse, je regarde aussi des arts plastiques, je m'intéresse aussi à la littérature, au théâtre. Donc, en fait, je n'arrive pas à nu. Et la réactivité qui m'est imposée par le quotidien est tout de même nourrie par ces choses-là. Néanmoins, il me faut... Alors là, je pense que ça, c'est un aspect qui peut-être fait complètement la différence. C'est que, étant lié à l'instant de la parution, au présent de la parution, il me faut tenir compte de la réactivité aussi du public. Donc c'est cette conjonction entre le point de vue que je peux avoir de mon côté et puis ce que je sens auprès du public. Et ces deux choses-là finissent par me servir pour produire un texte qui me paraît être légitime et justifié.
Est-ce qu'il n'y a pas des moments, quand on est en phase de festival, où on arrive à une forme de saturation, même cognitive, je dirais, c'est-à-dire il y a une telle surcouche de spectacle que cette fraîcheur du regard qu'on pourrait avoir en saison en voyant un spectacle par semaine, ou toutes les deux semaines, pour certains, ou trois spectacles par semaine pour d'autres qui ont la chance d'être à Paris, mais c'est pas tout le monde. Est-ce que là, en phase de festival, on n'est pas... Cette saturation n'enlève pas cette fraîcheur et cette façon... Une subjectivité complètement assumée.
Pour ce qui me concerne, j'essaie de pratiquer une espèce de mise en état d'innocence, on va dire. C'est-à-dire que j'arrive toujours devant le spectacle avec l'idée que ça va être le meilleur spectacle du moment et que je vais pouvoir me laisser surprendre. Évidemment, c'est un peu artificiel parce que je ne suis pas complètement à nu vis-à-vis de la réception. Mais néanmoins, j'ai toujours cette attitude-là.
Agnès.
Nous, c'est vrai que c'est un petit peu différent dans la mesure où on a le temps de la réflexion et puis le temps de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant, au niveau du rythme d'un festival ou de l'année, moi, ça ne fait pas une grosse différence parce que grosso modo, c'est plutôt 4 spectacles par semaine et encore, c'est parce que je m'interdis les 3 autres jours. Donc ça change pas énormément. Il n'y a pas d'effet de saturation dans un festival. Je dirais même au contraire, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut confronter dans un temps assez bref, des œuvres extrêmement différentes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose quand on doit écrire.
C'est sûr qu'en 3 jours, quand on passe d'un Buffard à un Kaderatou, un Akram Khan, et tout ça avec une petite... On va sauter sur des châteaux gonflables en même temps. On a un grand spectre. Manu.
Oui, pour revenir peut-être sur l'aspect raté ou réussi d'un spectacle, j'aimerais avoir votre point de vue sur les limites de la radicalité en danse contemporaine. Qu'est-ce qui pour vous est infranchissable? Qu'est-ce qui fait que on peut pas aller au-delà de ça, ou est-ce que ça coince tout simplement?
Pour moi, rien.
Oui, moi aussi.
C'est pas ça la question.
Est-ce que tu le mettras en lien avec avec Pâquerette de Chenio Bengolea?
Peut-être avec Pâquerette, peut-être avec Splendeur inespérée, peut-être avec des pièces de cet ordre-là.
Oui, mais dans tous les cas, il y a des pièces réussies ou des pièces ratées. Ce n'est pas la question des limites qu'on se met, c'est la question de ce qu'on voit.
Oui, et puis pour rebondir sur Pâquerette, qui est un spectacle évidemment abordant des interdits, puisque les deux danseurs mettent en place un dispositif de corps à corps, on va dire, où ils sont avec un godemiché dans l'anus. Ce qui est apparu est quand même très lié à l'histoire, puisque moi j'ai vu apparaître des figures d'emmurés de Pompéi, j'ai vu apparaître surtout des figures de statues baroques sur lesquelles l'interdit sexuel est absolu, hein, et donc c'est intéressant de voir tout d'un coup traiter cet aspect, même si dans un premier temps, si on réduit la description du dispositif à ce que j'ai dit juste avant, on a l'impression qu'on est dans une limite. En fait non, on est dans un regard sur l'histoire.
Il reste 2 semaines, comme on l'évoquait, pour conclure ce petit magazine. Qu'est-ce qui, dans votre tête, attise votre curiosité dans les 2 semaines à venir ?
Il y a plein de choses, ne serait-ce que la création de Chopineau tout à l'heure, qui va durer 3 heures. Donc oui, bien sûr, ça attise la curiosité de savoir qu'il y a un spectacle qui est à la fois une installation et qui va durer aussi longtemps. Donc on se demande bien ce qu'on va voir. Ou Anne Narine dans un genre absolument différent avec Aura. Il y a beaucoup de choses qui attisent notre curiosité. Raymond Dog, évidemment, avec sa création qu'on attend tous un petit peu avec impatience sur Bagouin.
C'est toujours étonnant de se dire qu'il y a quand même quelques figures que on attend tous. C'est-à-dire que la presse, forcément, sera au rendez-vous de certaines figures. Bon, c'est le principe d'un festival de création aussi, c'est-à-dire que vous descendez effectivement à Montpellier Danse et ça a pris cette ampleur et aussi cette ampleur médiatique parce que c'est le premier endroit où on va pouvoir voir des grands spectacles avant même Paris.
Avant Paris et puis surtout un nombre de créations rassemblées absolument exceptionnelles.
Pour finir peut-être complètement, après cette édition, cette 30e édition en forme de feu d'artifice, comme le disait Jean-Paul Montanari, qu'est-ce que vous attendriez l'une et l'autre d'une 31e édition?
La poursuite d'une attention à ce qui se fait, qui est construit, qui est pensé, et qui effectivement correspond à quelque chose de nouveau qui se passe maintenant dans la danse et qui repose sur la transdisciplinarité. Donc on voit apparaître maintenant des choses où art plastique et danse sont liés, comme dans l'installation de William Forsythe, que d'ailleurs je conseille, qui est absolument formidable. Et donc, bon, mais voir ce qui est nouveau, voir ce qui est intéressant. Et les choix qui sont pris par le directeur d'un festival, qui a été attentif quand même à cette idée jusque-là.
Agnès Izrine.
La création continue au-delà du 30e anniversaire de Montpellier Danse. De toute façon, il y aura forcément d'autres créations, d'autres points de vue sur la danse qui vont se dégager dans les années qui viennent, forcément.
2010-2020, les années, point d'interrogation, on verra. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission. On vous retrouve à 18h pour certaines. Valérie Hernandez au micro. Et Agnès, vous ne serez pas?
Non, je ne serai pas.
D'accord.
Vincent pourra jouer, me semble-t-il.
Ouais, il sera. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, lundi. Une petite pause pour se nourrir de plein de spectacles et revenir avec un œil frais dès lundi pour à nouveau 2 semaines de commentaires quotidiens sur ce festival.
À lundi.